Bonjour. Une visite adaptée aux personnes non-voyantes et malvoyantes était prévue le 17 avril au Moco Panacé. En raison de la situation actuelle, cette visite n'aura pas lieu. Nous espérons pouvoir programmer une nouvelle date à la fin du mois de mai si nos espaces d'exposition réouvrent. En attendant de se retrouver face aux œuvres, le service des publics du Moco vous propose une immersion dans l'exposition Permafrost, les formes du désastre, présentée du 1er février au 31 mai 2020. Nous vous proposons d'écouter les textes du livret du visiteur et des interviews des artistes choisis pour la visite. Introduction à l'exposition par Nicolas Bourriaud, directeur du MOCO. L'exposition Permafrost se présente comme un paysage changeant, transformant le centre d'art en une expérience immersive. Les artistes y proposent des œuvres liées aux désastres naturels, sociaux ou politiques issus du changement global et confrontent le visiteur à la vulnérabilité d'un monde en mutation. Pensée comme une métaphore des bouleversements actuels ou imminents, comme un potentiel et un danger, la fonte du permafrost sert de point d'ancrage à l'exposition. Le permafrost est le nom donné au sol constamment gelé qui recouvre un quart de la surface de l'hémisphère nord. Soumis au dérèglement climatique, ces sols fondent et libèrent de grandes quantités de méthane et de carbone. Leur fonte est à l'origine de phénomènes d'érosion, de disparition de lacs, de glissement de terrain et d'affaissement du sol. Elle bouleverse la composition des espèces végétales ou animales, libère et propage bactéries et virus jusqu'alors inconnus, gelés depuis des milliers d'années. Permafrost explore plus particulièrement comment les systèmes actuels, écosystèmes, capitalosystèmes et systèmes symboliques, évoluent et se transforment dans un mouvement permanent et incontrôlable de morphogénèse. Les œuvres participent à la création du présent comme de l'avenir, produisent la réalité comme la science-fiction et posent la question « Quels symboles, formes et mythologies peuvent encore apparaître quand les systèmes connus s'effondrent, les paysages se délitent, les cycles se dérangent ?» Les artistes dans Permafrost s'emparent de différents régimes esthétiques, formels et narratifs. Ils brouillent les frontières entre passé, lointain et futur proche, ères géologiques et chaînes de production, cherchant à élaborer des systèmes esthétiques répondant aux enjeux de notre temps, des formes de résistance. Pensée en résonance à l'exposition « Le 7e continent » de la 16e Biennale d'Istanbul, dont le commissariat a été confié à Nicolas Bourriaud, Permafrost rassemble des installations, sculptures, vidéos et dessins dont une grande partie a été coproduite par ou reconfigurée pour le MOCO Panacé. Œuvre numéro 1. Héloïse Heuser. L'artiste est née en 1985 à Londres où elle vit et travaille. Le travail d'Héloïse Heuser se base sur l'investigation, révélant ce qui est caché, invisible ou enterré. Pour cette œuvre coproduite avec la 16e Biennale d'Istanbul, l'artiste a filmé le plus grand centre de recyclage d'Istanbul. Il en résulte une installation vidéo et une série de sculptures qui explorent les enjeux économiques et sociaux soulevés par ces circuits de recyclage. Les déchets sont chargés de résonances symboliques et effectives de régénération et de perte. Ils sont manipulés par des professionnels utilisant des grues spécialement conçues. Le film suit l'orchestration du mouvement de ces machines dans une sorte de performance chorégraphique rythmée par le processus à l'œuvre. Pour l'artiste, la nature, en ce sens, n'est plus un matériau sur lequel l'industrie peut travailler, comme nous aurions pu auparavant considérer le bois, le gaz et le pétrole. Au lieu de cela, à l'ère de la consommation et des déchets de masse, il semble qu'il y ait maintenant un matériau de second ordre, déjà composé et recomposé par des procédés industriels. L'objectif de l'économie dite circulaire est de parfaire cette procédure, selon laquelle tout ce avec quoi l'industrie travaille a toujours déjà été composé, décomposé et recomposé. Question posée à l'artiste Héloïse Hauser pour son ensemble d'œuvres composées d'une sculpture vidéo et de sculptures avec des objets de métal brûlé et compressé. Comment est-ce que votre installation échappe à son contexte original ? Que dit votre installation de la situation politique actuelle ? Mes œuvres cinématographiques et sculpturales sont des réponses spécifiques à la gestion des déchets au Royaume-Uni et à Istanbul. Ces sites ne sont pas des contextes au sens ordinaire. Ils sont presque toujours cachés et n'offrent pas une idée précise de l'espace. Mon travail tente d'extraire un certain contexte à partir de ces immenses sites impersonnels. Dans mon film, j'ai attaché une caméra à la pince d'une grue, passant au crible un vaste paysage de débris se formant dans le hall de dépôt du site. Mes sculptures, quant à elles, sont composées de matériaux que j'ai récupérés lors du processus de recyclage. Une inspection rapprochée des déchets met en évidence la présence d'anciens usages et de gestes humains, révélant des espaces autrement transformés en ordures anonymes. J'ai eu une expérience surprenante en filmant sur ces sites. Les architectures et les machines au Royaume-Uni et en Turquie sont presque identiques, tandis que les déchets eux-mêmes et certains des processus cachés, impliqués, sont loin d'être uniformes. Bien que les sites les traitent comme une matière première, indéterminée et interchangeable, les examiner de matière plus artistique révèlent leur résonance politique, locale et internationale. À Istanbul, par exemple, nous savons que les ramasseurs occasionnels influencent la composition de ce qui est livré à la gestion des déchets de la ville. Ces deux flux ont récemment convergé vers un marché international des déchets, la Turquie étant désormais l'un des plus grands importateurs de déchets du Royaume-Uni. Œuvre numéro 2 de Dora Budor, artiste née en 1984 à Zagreb, en Croatie. Elle vit et travaille actuellement à New York. Dora Budor présente trois dioramas disposés à côté des œuvres d'Héloïse Hauser. Ces dioramas ou aquariums réagissent à des vibrations sonores inaudibles qui mettent en mouvement les volcans formés par l'accumulation de pigments que l'on peut observer à l'intérieur. Ce mouvement engendre la projection des pigments colorés. Ces pièces, intitulées « Origine 1, un cerf brûlant », Origine 2, l'incendie des maisons, et Origine 3, tempête de neige, pourraient être des miniatures de paysages de films de science-fiction. Ne restent que des horizons désolés et accidentés, une lumière blafarde, une dense poussière tourbillonnant sans cesse. Comme dans la plupart de ses œuvres, Dora Budor compose un univers fictionnel anticipatif, nourri par les histoires du cinéma, de la littérature, de l'architecture et de la peinture. Ces dioramas sont notamment inspirés de trois peintures de tempêtes de James William Turner, qui déjà au début du XIXe siècle représentaient des paysages rendus abscons par des nuages de poussière volcanique ou de particules de pollution. Malgré leur apparence désertique et purement minérale, ces paysages ont conservé les traces d'une activité humaine. Fonctionnant comme les chambres utilisées par les scientifiques pour tester la résistance d'objets manufacturés à l'usure et au temps, les œuvres interprètent les variations de nappes sonores enregistrées sur des chantiers. Ces échos inaudibles définissent la fréquence et l'intensité des éruptions de pigments qui troublent l'air des vivariums. Question posée à l'artiste Dora Budor pour ses trois chambres environnementales personnalisées réalisées en 2019. Quelle relation entretient votre travail avec le cinéma ? Je crois que mon travail entretient une relation dynamique avec le cinéma et ses procédés de création d'univers. Dans mon travail, il y a toujours une tendance à penser non au sujet et objet en tant que tel, mais plutôt par ce qui se joue entre eux, une situation transitoire qui existe selon certaines conditions ou atmosphères et qui produit un système complexe. De la même manière, un objet n'est jamais simplement perçu comme une chose, mais peut être considéré comme un outil, un événement ou un instrument. Ainsi, la tendance à raconter des histoires, aussi abstraites qu'elles soient, est toujours là. Contrairement à l'idée de Smithson, qui considère que passer du temps dans un cinéma, c'est faire un trou dans sa vie. Mon travail donne au corps du spectateur une fonction d'agent. Il devient participant actif, détermine le temps d'attention, la durée, la lisibilité de l'œuvre et parfois même l'influence directement. Le cinéma et l'architecture servent aussi comme mode de visualisation. Cela m'intéresse de voir les fictions cinématographiques comme des espaces architecturaux écrits et de regarder l'architecture à travers le prisme de différents dispositifs d'observation et d'expérience. Ainsi, les mécanismes utilisés dans mon travail sont souvent proches des procédés de montage. Je confronte des gros plans et des détails à des paysages en plan large, du macro au micro. Je joue des faits d'ellipse, tisse des trames narratives parallèles. Les corps ne sont pas les seuls à se mouvoir, l'espace aussi. Ils s'approchent, reculent, tournent, se dissout, se cristallisent.